ça me fait plaisir qu'on se fasse une petite balade en forêt tous les deux. Ben, mais pourquoi que tu prends le poste avec toi?
On va quand même pas louper la JT du local.
Et c'est sur l'autre radio.
Les histoires qui traversent cette émission sont toujours fascinantes, je ne les choisis jamais au hasard. Et si je prends autant de plaisir à être ici avec vous chaque jour, c'est que j'aime particulièrement que l'on m'en raconte, moi, des histoires. Et si possible, avec un peu de poésie, quelque chose de joli, voyez-vous. Voilà, c'est le rendez-vous que je voulais vous donner aussi à vous aujourd'hui dans cette émission, amis auditeurices. C'est bien pour cela que j'ai avec moi en studio aujourd'hui la compagnie du Moulin en Herbe, et plus précisément Anne Chamaret et Pierre Chauveau, qui viennent nous parler de la pièce La mécanique de Petit Pierre qui se jouera à l'Orbière à Forcé le 29 et le 30 octobre. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour. Bonjour.
Merci Margot.
Vous n'êtes pas seule puisqu'à vos côtés se trouve également Lucie Trocherie, assistante commerciale de l'Orbière. Donc vous allez aussi un petit peu nous parler de ce lieu qui va accueillir cette très belle pièce de théâtre. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Lucie. Bonjour. C'est bien si j'ouvre votre micro. Juste après, nous aurons, comme chaque mercredi, la petite annonce au bout du fil et on parlera d'un temps à Laval autour de la saison allemande. On continuera ensuite au théâtre avec des histoires, et exactement une histoire qui se jouera lors du festival Poupadzi à Laval. Souvenez-vous, hier, Pierre Jamais nous parlait de cette nouvelle édition qui commence donc le 27 octobre. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la pièce Jean-Claude en pleine création avec le collectif Aïe Aïe Aïe. Et justement, ça sera Julien Mélano, son directeur artistique, qui nous emmènera un peu sur scène et un peu dans tout le processus de création et d'écriture de cette très belle création. La pièce sera à découvrir pour sa première sur scène le 7 octobre, donc sur la scène du Théâtre de Laval. Cette émission se terminera avec notre chronique consommateur. Il s'agit de la chronique de l'UFC Que Choisir de la Mayenne avec Jean-Michel Guinaudot. Voilà, bienvenue dans l'Agité du local. Je suis Margot et je vous propose de commencer ensemble maintenant avec cette pièce, La mécanique de Petit Pierre, et la compagnie donc, du Moulin en Herbe. Je le disais, je suis en compagnie de Anne Chamaret et de Pierre Chauveau. Alors, si on veut dire quelques mots pour introduire cette création, cette pièce, vous l'avez écrite à partir de l'histoire de Pierre Avezard. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur Pierre Avezard? Qui est cet homme?
Alors, Pierre Avezard est né en 1909 dans le Loiret et fils d'agriculteur. Il est né handicapé, il avait un syndrome qui s'appelle le syndrome de Treacher-Collins. Il n'avait pas d'oreille, il était sourd, muet parce qu'une déformation du palais, un œil aveugle et l'autre qui voyait pas grand-chose, mais un cerveau qui fonctionnait très bien, un cerveau d'ingénieur. Et pendant 43 années de sa vie, il a construit un magnifique carrousel.
Et alors, comment est-ce que vous avez fait la rencontre de cette histoire, de ce personnage un peu à part ?
Alors là, oui, ça c'est pour toi aussi.
Alors,
ça.
On l'a rencontré en visitant le musée de la fabuloserie à DC. C'est un musée fabuleux qui se trouve entre Auxerre et Montargis, en dessous Paris, où le vrai manège, enfin le carrousel, est exposé depuis de nombreuses années. Et c'est en découvrant ce manège et l'histoire de ce monsieur que nous avons décidé de raconter son histoire.
Et alors, je me pose la question, quand on est face à une si belle histoire, à un personnage un peu à part comme ça, et qu'on se dit, tiens, ce serait intéressant de le mettre sur scène, quelles sont les questions qu'on se pose? Quelles sont les étapes de création pour en arriver à une pièce finale, comme on va pouvoir la découvrir, je le disais, à l'Orbière, à Forcé, le 28 et le...
29 et 30 octobre,
pour pas que je donne les mauvaises dates.
Eh bien, on s'est évidemment renseigné, il y a quelques écrits quand même sur sa vie, sur son œuvre, donc on a beaucoup lu, on s'est renseigné, on est allé plusieurs fois au musée, rencontrer les directrices du musée, et avec lesquelles nous avons parlé de sa vie, de son histoire, et c'est en glanant un certain nombre d'informations qu'on a pu sélectionner ce qu'on voulait garder pour raconter sa vie en 45 minutes.
En s'immergeant aussi dans le manège. On s'est retrouvés tous les deux dans le manège, tout seul. Et c'était assez impressionnant parce que Petit Pierre était là, ça c'est impressionnant.
Oui. Les sensations qu'on a...
Oui, tout est là, quoi. On sent cette poésie, ce bruit, cette ambiance, quoi.
Justement, on va en parler de poésie, puisque finalement, quand on écoute cette histoire, quand on peut la découvrir, c'est à la fois un inventeur et à la fois un artiste. Comment est-ce qu'on jongle entre tout ça dans la mise en scène, dans la scénographie, pour raconter tout ça?
Alors là, la metteur en scène serait certainement mieux à même que nous d'y répondre. L'objectif, ça a été vraiment d'être le plus fidèle possible à l'histoire et à ses étapes de création, mais aussi de faire passer l'émotion qu'il a suscité en nous au travers de cette œuvre d'art qui a été sauvée par un monsieur qui s'appelait Alain Bourbonnais, architecte et lui-même artiste doudingue, qui a pu, avec son équipe, démonter le manège qui était dans une ferme et qui était à l'abandon après son décès, après le décès de Petit Pierre, et qui l'a remonté dans le musée où on peut toujours le découvrir.
Et alors, Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, on est tous passionnés d'art brut, les trois. Anne, Odile, notre metteur en scène, et moi. Donc on s'est bien donné une histoire aussi pour la construction. On est parti de l'art brut, on est parti du décor en fait. Du décor, de ce qu'on pouvait faire, et on a accroché son histoire dessus, quoi.
Et alors, on vous découvre tous les deux sur scène. Quel personnage vous jouez ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, Pierre, le grand Pierre, joue le rôle de petit Pierre.
J'ai pas sa tête.
Il a pas sa tête, mais dans le spectacle, il s'en rapproche assez, je trouve. Et moi, je joue le rôle de Thérèse, qui était sa grande sœur, qui lui a appris à lire et écrire un peu, parce qu'il est resté très peu à l'école, victime de harcèlement par ses camarades. Donc ses parents avaient décidé de le retirer très vite de l'école et il est devenu garçon vaché. C'est à l'époque ce qu'on faisait des enfants. Puis il n'y avait pas d'orthophoniste, il n'y avait pas de médecin pour les aider. Et cette grande sœur, qui était assistante sociale, s'est occupée de lui en lui apprenant à lire, écrire un peu. Et dans le spectacle, elle jongle entre théâtre et manipulation d'objets pour raconter l'histoire.
On parle de différence aussi, c'est forcément une thématique qui est abordée dans cette pièce. Et alors la relation, l'amour fraternel finalement arrive à construire quelque chose au-delà de ce que subit ce personnage. C'est ça qui est très beau.
Oui, tout à fait. Alors il y avait Thérèse et aussi Léon, le plus jeune frère cadet, qui devait avoir, je crois, 18 ans de moins que petit Pierre, qui lui était ingénieur à l'aéronautique et qui lui a fait faire pas mal de voyages en France et dans les pays limitrophes pour lui faire découvrir des sites remarquables que petit Pierre photographiait dans sa tête et qu'il reproduisait sur ses boîtes de gâteaux en fer blanc et sur ses boîtes de conserve. Il reproduisait ce qu'il avait vu pour étoffer son carrousel.
On l'a dit tout à l'heure, cette pièce, donc la mécanique de petit Pierre, sera jouée à l'Orbière à Forcé le 29 et le 30 octobre. Et alors, est-ce qu'on peut en dire quelques mots peut-être, Lucie, sur cet espace qui va accueillir cette pièce de théâtre ?
Oui, alors... L'Orbière, c'est un domaine de loisirs, hébergement, réception. Et là, ça se déroulera donc à La Grange, qui est notre salle où on accueille habituellement plutôt des séminaires et des locations le week-end pour les anniversaires, les mariages. Après, c'est un lieu, nous aussi, on l'appelle théâtre parce qu'on passe notre temps à démonter, remonter et à faire vivre au maximum ce lieu. On organise des concerts tous les vendredis de l'été. Et c'est comme ça d'ailleurs que Anne et Pierre sont venus jouer avec leur groupe Raisin Sec. Et quand Anne a vu la salle, elle a dit qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Et comme on est toujours partant pour faire découvrir la culture et des activités familiales, on a tout de suite dit oui et on a calé une date pour qu'ils viennent jouer chez nous.
C'est l'occasion justement de faire venir aussi un peu le théâtre en milieu un peu plus rural. On n'est vraiment pas loin de Laval, hein, on peut le dire quand on est à Forcé, mais malgré tout, finalement quand on est habitant de Forcé, de Parnay, on se dit c'est juste à côté de chez moi qu'il se passe quelque chose. C'est intéressant aussi de pouvoir créer ces temps-là dans ces villes un petit peu plus petites, ces villages. Comment est-ce qu'on adapte sa mise en scène, son décor, dans un espace qui n'est pas forcément prévu pour initialement ? C'est aussi une proposition qui est vraiment intéressante.
Techniquement, on s'adapte. Il y a tout ça de vrai. En espace, en hauteur, et puis le son, enfin bon, oui, vraiment, on s'adapte complètement, partout, on joue partout.
Disons que quand il y a l'espace scénique suffisant et le noir dans la salle, après, nous, voilà. On est des grands bricoleurs comme petit Pierre, donc on s'adapte.
Parce que la mise en scène est vraiment conçue pour amener toute cette poésie. Il y a quelque chose au niveau des éclairages. On parle de mécanique. La mécanique, on la voit directement sur scène, on peut le dire.
Oui.
Elle vient gentiment sur scène. Elle vient gentiment. On ne peut pas dire.
On peut pas trop en dire.
Au fur et à mesure du déroulé de l'histoire.
Voilà. Voilà. Oui, à chaque fois, il y a une petite découverte, quoi. Et puis ça avance jusqu'à un feu d'artifice.
Et alors, c'est une pièce qui ne s'adresse pas seulement aux enfants. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, qu'on soit le parent qui accompagne, qu'on soit l'adulte qui vient sans enfant.
Exactement.
Tout le monde y verra quelque chose.
C'est un peu la couleur de la compagnie, c'est-à-dire qu'on a toujours essayé de créer des spectacles avec différents niveaux de lecture, adapté pour des enfants à partir de 5 ans et jusqu'à 99 ans, sans souci, effectivement. Je pense qu'il y a des choses que les enfants de 5 ans ne captent pas forcément, mais qui parlent vraiment aux adultes, tout ce qui est histoire du harcèlement, de la poésie de vie qu'avait Petit Pierre touche souvent beaucoup les adultes.
Oui. Et question de résilience aussi, alors c'est quelque chose qu'on amène pas forcément facilement comme sujet auprès des enfants, se reconstruire après avoir vécu quelque chose.
Oui.
Le harcèlement, c'est quelque chose que les enfants connaissent.
Mais... Et en fait, même s'ils n'ont pas le mot, hein, le mot résilience, je pense qu'ils le comprennent parce qu'on aime bien faire des bords de scène à la fin, après le spectacle. Et les enfants lisent très bien qu'il a été malheureux, qu'il s'est fait embêter, comme ils disent, quand il était petit et dans ses jeunes années, mais que quand même, il a réussi à faire quelque chose. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'enfants auxquels ça peut vraiment parler personnellement.
Et les bords de scène servent aussi aux adultes, parce que je vois après, souvent des hommes viennent voir derrière comment ça fonctionne, toutes les petits trucs, les trucages, quoi. Et puis la mécanique, il y a toujours des questionnements assez fins, c'est
combien est-ce que ça a mis de temps peut-être pour concevoir justement tout ce décor?
Alors moi, ce que je raconte à chaque fois, c'est que j'ai mis trois mois sans dormir.
Oui, donc oui.
Voilà.
D'ailleurs, vous avez l'air fatigué. Non, vous avez l'air très en force. Ça fait un moment maintenant qu'il tourne finalement ce spectacle. Si je ne me trompe pas, c'est une création qui date de 2020.
Oui, on arrive à la 95e là.
Ah oui, d'accord. Et alors, il y a dû y avoir justement un certain nombre de retours du public sur cette pièce. Quelles sont les réactions que vous pouvez avoir?
Moi, j'ai eu des choses assez fortes. Je vois sur Saint-Brévin, par exemple, une femme qui vient vers moi et puis qui n'a pas pu parler, qui s'est mise à pleurer d'un coup. Boum. Alors, c'est pas triste, hein, mais ça devait faire quelque chose chez elle. Il y avait un retour.
Le mot qui revient souvent, c'est poésie. Voilà. De la bouche des adultes, hein, évidemment, pas de la bouche des enfants. Les enfants sont émerveillés par le manège qui tourne à la fin du spectacle. Et les adultes par l'histoire, et c'est souvent le mot poésie qui revient.
Et vous, sur scène, j'imagine aussi qu'il y a une émotion, malgré, voilà, vous avez dit 95e représentation, c'est toujours aussi fort de raconter cette histoire pour vous.
Oui.
Ah oui, c'est même, pour moi, c'est ce que je préfère, enfin, c'est le spectacle que je préfère dans toute notre carrière, là. C'est celui qui m'emmène le plus. Je suis dans sa peau, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Il y a une partie musicale aussi qui a été créée en partie par vous, Pierre.
Oui, puis Angèle, notre fille, au niveau piano. Toutes les parties piano, oui. On était tous les deux là-dessus, quoi.
Comment est-ce qu'on pense la musique justement sur une pièce? On pense d'abord le décor, ensuite on commence à écrire et puis la musique se greffe après. Comment ça se passe?
Je dirais que c'est toujours un voyage. De créer une musique, c'est... Moi, je vois un paysage, toujours. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est plutôt en graphisme. C'est des notes, ce sont des accords, mais c'est surtout un paysage. Je vois souvent quelque chose qui passe par là, quoi.
Et alors, donc on pourra vous découvrir dans la salle L'Orbière à Forcé le 29 et le 30 octobre. Le tarif est très accessible pour venir vous voir. Il faut en profiter, c'est les congés scolaires, les vacances scolaires.
Alors, il y aura le 29, une représentation à 16h, le 30 à 16h et 20h30. Et effectivement, le tarif, 8 euros l'entrée et 6 euros pour les moins de 10 ans.
Donc, très accessible, il ne faut pas passer à côté de ce moment-là. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je propose maintenant qu'on fasse une petite pause musicale et on reste encore d'une certaine manière avec vous. On reste avec la mécanique de Petit Pierre puisqu'on écoute un morceau. Je crois que c'est le morceau final de la pièce. On passe ce moment ça. Encore ensemble. Oui. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
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 Et voilà, c'est un moment maintenant à laquelle on est bien habitué. Ça va être la petite annonce au bout du fil. Mais avant ça, j'ai envie de vous préciser que si vous ne pouvez pas venir assister à la mécanique de Petit Pierre, à cette représentation qui aura lieu, nous le disions tout à l'heure, le 29 et le 30 octobre à l'Orbière à Forcé, eh bien, vous êtes invité dans le sud de Mayenne, à la salle de Lorion, à la salle craonnaise, vendredi 25 octobre à 20h30. Voilà, on passe maintenant à la suite de cette émission.
Allô, Jean-Pierre ? C'est Jean-Pierre ? Allô ? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans ?
Excuse-moi.
Ça te dérangerait pas de sortir pour aller téléphoner ? Dis donc, oh !
Allô ? C'est Guy ? Bah...
Alors aujourd'hui, la petite annonce au bout du fil va nous emmener à Laval. Et c'est Jocelyne Naveau, responsable du pôle culturel de la Maison de l'Europe en Mayenne, qui nous annonce un événement qui arrive ce week-end.
Il s'agit dans le cadre de la saison allemande, la Maison de l'Europe en Mayenne présentera à la bibliothèque Albert Legendre, donc le 27 octobre, à partir de 16h, des morceaux choisis de la littérature allemande, sous forme de lectures qui seront accompagnées d'un diaporama. Et les textes choisis seront projetés pour que les personnes malentendantes puissent les lire. Notamment, et puis il y aura également quelques photos des auteurs, du lieu où ils vivaient, etc. Ce diaporama portera sur des textes allant du 12e au 20e siècle. Alors, si vous voulez, je vais énumérer un peu les textes qui vont être lus. Des textes du 12e siècle, d'Hildegard von Bingen, qui est une très grande auteure et musicienne, Elle a écrit notamment le livre des visions, parce qu'elle a eu des visions. Et elle s'est adressée à Bernard de Clairvaux pour savoir si elle pouvait les publier. L'ensemble de textes qui s'appelle Louange, ce sont des poèmes destinés à être chantés et accompagnés de musique. C'était une très grande musicienne pendant les célébrations religieuses. C'était aussi quelqu'un qui connaissait la médecine et qui était abbesse. Et dans ses habits, les habits étaient mixtes. Et c'était les femmes qui dirigeaient les habits. Et puis nous lirons le best-seller du XVe siècle, La Nef des Fous, écrit par Sébastien Brandt. C'est un livre qui a inspiré Erasme au XVIe siècle avec l'éloge de la folie. Je continue. Des contes allemands, transcrits dans le livre Contes populaires allemands par Auguste Musaus au XVIIIe siècle. La pièce de théâtre Nathan le Sage, et les fables de Gotton Ephraim Lessing, toujours au XVIIIe siècle. Enfin, pour clore le XVIIIe siècle, l'ode à la joie, appelée également l'hymne à la joie de Friedrich Schiller. Ce texte est surtout connu comme finale du dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, composée au début du XIXe siècle, et elle est devenue, comme vous le savez, l'hymne officiel de l'Union européenne en 1985. Le XIXe siècle est illustré notamment par la pièce de Faust, de Wolfgang von Goethe et le poème L'Orlae germanique, c'est pas l'Orlae d'Apollinaire, de Clémence Brentano, et d'un conte également de Brentano qui s'appelle Le corps merveilleux de l'enfant et qu'il a travaillé avec Achille von Haïm et qui a été écrit au début du XIXe siècle. Et bien sûr, des extraits des contes des frères Grimm. Enfin, pour le XXe siècle, l'opéra de Katsu, des extraits de l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht et du roman Le Tambour de Günter Grass. Ceci dit, pour ce qui concerne l'opéra de Katsu, nous parlerons également du film qui a été tiré de ce texte. Pour terminer, pour le XXe siècle, avec un auteur qui n'est pas décédé, il s'agit de Bernard Schlink, qui a écrit en 1995 le roman Le Liseur. Et ce roman, c'est le livre le plus lu en Allemagne et il est lu par les scolaires dans le cadre de l'étude de la Shoah. Il a été également fait un film sur ce texte qui s'appelle The Reader, qui a eu beaucoup de succès, et un film qui date de quelques années après la diffusion du livre. Voilà l'essentiel que j'avais à vous dire.
Merci Jocelyne. Ce que l'on peut rappeler à l'auditeur de l'autre radio, c'est que donc, cet événement a lieu le dimanche 27 octobre de 16h à 18h à la bibliothèque Albert Legendre à Laval, et alors l'entrée est gratuite.
Oui, c'est gratuit, tout à fait.
Eh bien, merci Jocelyne, et à bientôt. Alors, avant de continuer cette émission, la JT du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval, je vous propose une petite pause musicale avec un jeune artiste belge, il s'agit de Satchel Hearts, et on écoute son titre, Elina.
And I don't even look into your eyes.
On se rend maintenant ensemble au Théâtre de Laval avec le collectif Aïe 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 qui était il y a peu en résidence pour les dernières étapes de création de la pièce Jean-Claude qui sera présentée pour la première fois le 7 novembre lors du festival de marionnettes Poupazzi. Hier, Pierre Jamais nous donnait la couleur de cette nouvelle édition. Aujourd'hui, moi je vous amène en coulisses. Écoutez.
Je suis Julien Mélano, je suis un des co-directeurs artistiques du collectif Aïe 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 et metteur en scène du spectacle Jean-Claude. Jean-Claude, c'est un petit peu le reflet d'une humanité fantastique qui est projetée dans un univers extraterrestre. Une petite poignée d'humains répliqués à partir d'un personnage qu'on appelle Jean, qui se retrouve dans une mission intergalactique qui lui échappe complètement. Et il devient un peu l'instrument d'un combo machine, animal, végétal. Il découvre au fur et à mesure pourquoi il est embarqué dans cette mission. Donc il est à la fois... auxiliaire de cette mission, il sert au développement d'une mission qui est un peu obscure, mais on comprend qu'il s'agit de redéployer un écosystème sur une planète vierge. Donc c'est un peu ça la situation de départ.
On imagine que ça s'inspire du monde dans lequel nous vivons et des questionnements actuels.
Oui, bien sûr, ça prend racine dans des problématiques très contemporaines liées à l'écologie, aux avancées technologiques, à la conquête spatiale, au grand écart que ça peut procurer d'ailleurs entre la sauvegarde des espèces par exemple et puis la conquête spatiale. Il y a comme deux choses un petit peu antagonistes qui se développent en parallèle sur Terre. D'un côté comme de l'autre, il y a des situations un peu tendues, il y a des solutions. Le spectacle essaye de combiner un petit peu tout ça. On peut y voir les lubies de certaines personnes qui préparent une certaine manière de quitter la Terre, hein, donc de fuir le problème de la destruction de l'environnement ou de l'appauvrissement du vivant avec une solution un peu extrême et assez égoïste de partir ailleurs dans son petit vaisseau.
Alors la pièce Jean-Claude, on va pouvoir la découvrir sur la scène du Théâtre de Laval le jeudi 7 novembre pendant le Festival Poupazzi. Le Festival Poupazzi, c'est un temps qui met en avant le théâtre de marionnettes, le théâtre d'objets. Comment est-ce que votre création s'inscrit dans ce temps-là? Comment est-ce que la mise en scène joue avec ça?
Mon travail... s'appuie beaucoup sur le travail de l'image. Donc quand je parle d'image, c'est pas l'image vidéo, mais c'est l'image sur scène. Comment on construit une image, un tableau avec de la scénographie, des éléments de décor, de la lumière, le son, les costumes, tout ça, ce sont des éléments très importants dans l'écriture de la pièce, autant que le texte. Je ne fais pas de hiérarchie entre le texte et les éléments plus liés à la technique. Tout ça, pour moi, c'est un ensemble. Ce qui crée du lien avec l'univers du théâtre d'objets ou de la marionnette, c'est cette attention-là pour l'utilisation des objets et la manière dont ils composent des images. Donc j'aime jouer sur des détournements assez simples d'objets. On n'est pas franchement dans un spectacle de marionnettes, mais on utilise des techniques liées à la marionnette pour produire certaines images. Et il y a aussi une scénographie manipulée, donc la scénographie est vraiment évolutive. On pourrait dire que le décor est presque une sorte de marionnette puisqu'on manipule ce décor en direct.
Actuellement, vous êtes installé au Théâtre de Laval justement pour travailler, pour amener ce projet jusqu'à la phase, en tout cas qui va être présentée aux spectateurs. Vous en êtes où? Quelles questions sont en cours de ce que vous pouvez nous dire?
Eh bien, on arrive bientôt à l'échéance, puisque donc, le spectacle est présenté à Laval le 7 novembre. Et là, c'est notre dernière résidence sur un grand plateau. Ensuite, on va retourner un petit peu en résidence à Cesson, au Pont des Arts, à côté de Rennes. On aura encore une petite semaine pour vraiment faire des répétitions. Maintenant, on a tous les éléments réunis. Le texte est quasiment stable. La scénographie, on a à peu près tous les éléments. On a plein de petits détails à régler, mais ce qui est rassurant pour l'instant, c'est qu'on est là à Laval en capacité de faire un déroulé complet du spectacle. Et à chaque fois, on modifie encore des petites choses, mais voilà, il n'y a plus de grosses questions de dramaturgie ou de scénographie. Donc on commence vraiment à prendre du plaisir à développer la pièce et on se rend mieux compte du rythme global. Et c'est ce qu'on travaille maintenant, c'est les questions de rythme. C'est un peu comme une partition musicale où ça y est, on connaît la partition. Maintenant, il faut la jouer et puis lui donner un rythme qui suscite l'intérêt du spectateur.
En tant que directeur artistique, à ce stade du travail, qu'est-ce que vous espérez du ressenti du spectateur ? On est quand même dans un univers un peu particulier. Est-ce que vous vous attendez à une certaine résistance ou davantage à un abandon ? Le spectateur se laisse aller. Mais vous m'avez aussi évoqué un peu d'amusement tout à l'heure. Alors, c'est qu'il y a aussi un peu d'humour dans ce qui va se jouer sur scène.
Oui. Alors, c'est un humour un peu qui est sur le fil. D'ailleurs... on peut très bien prendre cette pièce-là, c'est pas une grosse comédie où on va se taper sur les cuisses, mais il y a un humour quand même sous-jacent à tout ça. Il y a une absurdité quand même de la situation. C'est quand même, on travaille aussi avec des grosses ficelles un peu. Hein, on est quand même sur une autre planète avec une capsule complètement improbable, des personnages clonés. Donc on a plein d'éléments qui font que ça induit une distance et une autodérision. Donc l'idée, c'est que le public s'amuse avec cette situation, mais soit aussi un petit peu dérangé. Voilà, il y a un équilibre à trouver entre quelque chose de drôle et d'inquiétant, et ça peut être même un peu angoissant. Mais j'essaye de garder l'équilibre pour jamais tomber d'un côté ou de l'autre.
Là, vous parlez d'absurde, et alors je me dis souvent, c'est quand même un très bel outil pour parler de choses très concrètes, très ancrées dans le réel.
Mais oui, parce que c'est vrai que si on écoute tout ce qu'on nous dit dans les médias, il y a de quoi déprimer complètement et désespérer. Donc il faut trouver des ressorts pour ne pas sombrer dans ce désespoir et plutôt garder quelque chose d'un peu lumineux. Alors la situation de Jean-Claude, elle raconte quand même une espèce d'échec, une fuite qui pourrait un peu rater. J'espère que le côté poétique, humoristique et esthétique de la pièce va contrebalancer avec un désespoir un peu sous-jacent comme ça. En tout cas, j'ai envie de m'amuser avec ça parce que j'ai vraiment l'impression que aujourd'hui, c'est l'humour qui va peut-être nous sauver de la gravité.
Alors là, on n'est que tous les deux pour parler de cette création, mais il y a aussi des comédiens que l'on découvrira sur scène qui sont même actuellement en train de répéter. Est-ce qu'on peut les présenter rapidement, en dire quelques mots pour terminer ?
Je travaille avec une équipe de 4 comédiens, mais sur le plateau, il n'y aura que 3 comédiens qui vont interpréter le même personnage. Il y a Vincent Voisin, un comédien avec qui j'ai déjà travaillé sur une précédente création, Super Gravité, Jean-Baptiste Saunier, Arnold Mensa et Aurélie Brialix, qui est en alternance avec Arnold, pour des histoires d'organisation de tournée et de disponibilité.
Voilà, après ce moment au théâtre, eh bien, je vous emmène un peu dans mon sac à main. On va regarder un peu nos portefeuilles et faire des économies ensemble. Et pour ça, eh bien, il y a une chronique qui revient chaque mercredi, en tout cas un mercredi sur deux dans cette émission. Il s'agit de la chronique de l'UFC Que Choisir avec Jean-Michel Guinaudot.
La chronique du UFC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudot.
Bonjour Jean-Michel Guinaudot, vous êtes bénévole à l'UFC Que Choisir de la Mayenne et vous voulez nous parler d'économie d'énergie.
Oui, bonjour Margot, et plus particulièrement sur la consommation d'électricité. Aujourd'hui, chacun connaît ce que l'on appelle les éco-gestes. Éteindre les lumières d'une pièce que l'on n'occupe pas, baisser la température de 1 ou 2 degrés, mettre les thermostats en mode éco lors des absences de la journée ou disposer de thermostats connectés. Ils sont très efficaces et apportent un grand confort de vie. Mais l'installation de panneaux photovoltaïques permet de produire une partie de sa consommation électrique. Mais leur installation en toiture coûte encore assez cher. entre 7 000 et 10 000 euros minimum pour l'installation des classiques 3 kW crête qui produiront en moyenne entre 7 à 10 kWh par jour. Vous ne les consommerez pas car ils sont produits pendant la journée et vous utilisez l'électricité le soir et la nuit. Il faut donc revendre le surplus du jour et acheter les besoins de la nuit.
Ça représente la consommation de quels appareils ?
En gros, ces panneaux, ils couvrent la consommation du frigo, du chauffe-eau, du congélateur et les appareils en veille. Mais pas le chauffage, pas les machines à laver, pas le sèche-linge. On ne peut donc pas être en autonomie complète. Pour effacer la consommation hors chauffage, il faut doubler la surface de panneaux et acheter l'électricité pour se chauffer si l'on a des radiateurs électriques ou une pompe à chaleur.
On voit dans les magasins des kits de panneaux photovoltaïques pour 500 à 1000 euros. Que produisent ces kits à monter soi-même ?
En effet, que ce soit les grandes surfaces généralistes ou les enseignes de bricolage, les halls d'entrée sont encombrés par ces panneaux. Les prix sont attractifs, mais ils ne produisent pas beaucoup. Leur production est indiquée en watts crête, soit 1000 fois moins inférieure au kilowatt crête. Un kit de 500 watts crête produit 10 fois moins qu'une installation de 3 kW crête. Pour une production similaire, on arrive donc à peu près au même prix. Ils sont vendus à monter soi-même. Mais attention, on ne peut pas installer des panneaux photovoltaïques comme un parasol. Il faut en informer Enedis, le gestionnaire du réseau, et obtenir l'autorisation de la mairie. Ils sont fragiles et les rendements sont différents d'une marque à l'autre. La revue Que Choisir présente un dossier et un test sur son numéro d'octobre. Le montage, facile, en moins d'une demi-heure, et le raccordement se fait par une prise murale dédiée et protégée par un interrupteur différentiel de 30 mA. Il faut y penser avant l'achat.
Le branchement au réseau, il est obligatoire ?
Eh oui, la puissance fournie est faible et ne permet pas de faire fonctionner la plupart des appareils. Pour obtenir la puissance de démarrage du compresseur d'un réfrigérateur ou d'un congélateur, on a besoin de la puissance du réseau. Ces panneaux, seuls, ne permettraient que d'allumer quelques lampes dans un cabanon de jardin en plein soleil.
Alors faut-il se lancer dans ce genre d'achat, Jean-Michel ?
Que Choisir estime l'économie annuelle à 100 euros.
On va réfléchir avant de se lancer dans cet achat. Alors rappelez-nous les coordonnées de votre association.
Oui, l'UFC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi matin au vendredi midi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 02 43 67 01 18, par mail à contact@mayenneufcquechoisir.fr ou sur notre site mayenne.ufcquechoisir pour un renseignement ou un rendez-vous à Laval ou Château-Gontier. Et bien sûr, si vous voulez nous aider, on peut vous recevoir. À bientôt.
Merci Jean-Michel, à bientôt. L'AJT du local s'arrête ici. Merci à la compagnie du Moulin en Herbe d'avoir été avec nous. Merci à Lucie de Lorbière également d'être venue en studio. Et puis un dernier merci à notre chroniqueur Jean-Michel Guinaudeau de l'UFC Que Choisir de la Mayenne. Je m'arrête ici pour ma part, mais ça continue en beauté sur nos ondes. Regardons ce soir à partir de 19h, c'est Novorama, une émission qui chaque semaine nous fait découvrir une sélection de nouveaux albums indie, rock, pop et électro avec de groupes émergents. Donc une soirée plutôt musicale. Voilà, moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'AJT du local. D'ici là, si vous êtes en vacances, eh bien profitez-en, reposez-vous, serrez vos enfants dans vos bras. En tout cas, s'il vous plaît, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh bah c'était bien, hein.